Il y a 86 ans, le 14 juillet 1939, était découvert un gisement d'hydrocarbures sur la commune de Saint-Marcet. Ce sera une première en France qui durera une soixantaine d'années. Ainsi va naître la RAP, la Régie Autonome des Pétroles, qui plus tard prendra le nom d'Elf Aquitaine. Cette période qui a marqué l'histoire du commun vient d'être retracée à travers un film réalisé par Virginie Maviard et Vincent Barthes. Vincent Barthes, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes réalisateur de ce documentaire et puis même d'autres documentaires, que vous avez eu l'occasion de faire. Ce travail a duré plusieurs années, comme nous allons le voir dans un instant, nous avons pu voir en première partie hier. Pour cette seconde émission, ce second entretien, hier nous avons vu comment vous aviez réalisé ce film, que l'on peut voir où, rappelez-nous où à...
Alors le film a été coproduit avec une télévision régionale qui s'appelle Via Occitanie, donc on peut le voir...
Disponible sur les box, hein, cette chaîne.
C'est une chaîne qui est disponible sur les box, pas sur la TNT en Comminges. Mais c'est dit, on peut le voir aussi sur le site de Via Occitanie, viaoccitanie.fr, je crois.
Et qui peut être, enfin, qui sera bientôt diffusé aussi au cinéma.
Oui. Alors c'est à partir du 18 septembre qu'on pourra le voir au cinéma Le Régent. Et sans doute, on va voir avec l'équipe du Régent, mais il est prévu qu'on le diffuse aussi sur d'autres salles de leur réseau. Montrégeau,
Lannemezan peut-être.
Lannemezan, oui.
Comment à l'époque a-t-on découvert ces gisements d'hydrocarbures ?
Alors à l'époque, on l'a découvert. C'est très intéressant parce qu'en fait, c'est la première fois qu'on découvre du pétrole en le cherchant. Jusqu'à présent, le pétrole, c'était du pétrole que l'on trouvait dans des lieux qui indiquaient que tout le monde savait qu'il y avait là du pétrole. Par exemple, en Alsace, qui est un endroit où on a trouvé du pétrole dès le Moyen-Âge, dans un village qui s'appelle Pechelbronn. Pechelbronn, ça veut dire la fontaine de poix. Poix, P-O-X. Là, partout en Irak ou aux États-Unis, là où on a trouvé du pétrole, c'était soit fortuitement, en creusant un puits pour trouver de l'eau, on trouve du pétrole, on voit ça dans Lucky Luke, mais c'est la réalité. Et nous ici, en fait, c'est la première fois que l'on a trouvé du pétrole grâce aux travaux réalisés par des géologues. Ces géologues, c'est déjà depuis les années 1925 qu'ils disaient qu'il devait y avoir du pétrole à cet endroit-là, c'est-à-dire sur un anticlinal formé par les petites Pyrénées. Les petites Pyrénées, donc, c'est cette micro-chaîne qui est une sorte d'écho aux Grandes Pyrénées, que l'on retrouve d'Aurignac.
Parce que qu'on appelle les coteaux un peu les
c'est coteaux. Pas les coteaux, parce que c'est pas la même orientation que les coteaux de Gascogne. C'est un petit chaînon calcaire qui traverse la Garonne à Martres-Boussens. On le retrouve presque jusqu'aux limites de l'Ariège, Haussin, Belbèze, et puis ensuite de l'autre côté, donc Olon, Aurignac, tout ça, ça forme ce qu'on appelle les Petites Pyrénées. Et c'était une structure qui, géologiquement, rappelait beaucoup des choses que l'on avait trouvées en Californie et en Irak, où là aussi, une grande chaîne de montagnes connaît une sorte de réplique, et qui forme donc ces anticlinaux, qui eux-mêmes donc sont une sorte de réservoir qui permet de conserver le gaz et le pétrole. Et ils se sont dit, c'est là qu'il faut fouiller. Alors là, c'est quelque chose de très particulier parce que, en fait, c'est l'État qui, à l'issue de la Première Guerre mondiale, s'aperçoit que la Première Guerre mondiale... C'est la première guerre motorisée. Et on s'aperçoit que finalement, Clémenceau dit, une goutte de pétrole vaut une goutte de sang. Et c'est à ce moment-là que l'État se dit, il faut absolument qu'on trouve le pétrole nécessaire d'un point de vue stratégique sur notre territoire. Et donc des géologues font des premières recherches dès les années 20. Et c'est ces géologues, donc Léon Bertrand notamment, qui a réalisé une carte géologique des Pyrénées, et Jacob, qui ensuite sera le premier directeur du CNRS. La première réalisation du CNRS, c'est le gaz de Saint-Marcé.
60 ans d'histoire, hein, de pétrole et de gaz à Saint-Marcé, qui connaîtront la période de la Seconde Guerre mondiale.
Ah oui, alors c'est... Donc dès le début, on est plongé dans une histoire très intéressante et très complexe, parce que Pierre Angot est nommé en 1941 à la présidence de la RAP, Et Pierre Angot, ainsi que tous les cadres de la RAP, vont jouer un double jeu, vont faire croire aux Allemands qu'il n'y a pas de pétrole, pour préserver la ressource et préserver l'avenir. Ils attendaient vraiment ce que l'on a pu appeler les jours meilleurs. Et Pierre Angot le paiera de sa vie, puisqu'il fera partie du dernier convoi. C'est vraiment très triste, hein. C'est une histoire qui fait mal, hein. Donc c'est le dernier convoi qui part de la prison de Fresnes en août 44. Et il meurt dans une mine de sel près de Buchenwald à quelques semaines de la libération. Pierre Angot, pardon, oui, était originaire du Comminges. Il était né à Montrégeau, ingénieur des mines. Il avait déjà fait un travail similaire en Roumanie avant la guerre, où il dirigeait donc la compagnie minière nationale roumaine. Et il avait mis au point un plan de sabotage des installations pétrolifères en Roumanie, qui était à l'époque le plus gros producteur de pétrole en Europe, pour que les Allemands ne puissent pas s'en emparer. Il n'a pas pu réaliser ça, les Allemands sont arrivés trop vite, hein, et les Allemands ont trouvé les papiers qui le désignaient comme le responsable de ça. Et malgré tout, il a été désigné par Vichy comme le patron de la RAP.
La RAP va au fil du temps prendre de l'ampleur en France et dans le monde. De quelle manière ?
La Régie autonome des pétroles...
Elle changera de nom, hein, après ?
Alors elle va changer de nom parce qu'elle va s'unir... C'est au départ une officine étatique. D'une officine étatique, on confie la mission, et là c'est Hubert de Vries, le premier directeur général de la RAP, qui va très bien se débrouiller avec cette mission, qui en fait une entreprise. C'est une entreprise qui part d'une page blanche. On n'a pas ça. Il y a en France déjà la CFP, Compagnie Française de Pétrole, qui est l'ancêtre de Total. Mais la CFP n'est qu'une entité financière. Elle prend des participations dans des compagnies déjà existantes. Donc elle ne développe pas des capacités de recherche, d'exploration, comme le fait dès le départ la Régie autonome des pétroles. De Vries était quelqu'un qui avait fait, donc comme tous ceux que l'on va croiser à la tête de cette entreprise, quelqu'un qui a fait Polytechnique et École des Mines. Et il a fait une sorte de stage, en fait. Il a été ouvrier dans une entreprise pétrolière américaine. Et il a vu tous les métiers depuis la base. Et ayant cette connaissance, il monte une entreprise avec tout depuis l'électricien qui doit intervenir sur une foreuse, les foreurs, tout est créé et rien ne préexistait à ceci. On avait des ingénieurs qui faisaient des recherches dans nos colonies de l'époque, Madagascar, le Maroc. Donc il y avait quelques personnes et puis il y avait des Alsaciens qui connaissaient le pétrole, parce qu'il existait déjà en Alsace, mais un pétrole qui n'est pas du tout comparable à ce que l'on a trouvé sur Saint-Marcet, donc où il y avait du gaz et du pétrole, qui est un pétrole très lourd qui ne pouvait servir qu'à faire de l'huile. On ne pouvait pas faire du combustible, du carburant avec le pétrole alsacien. Et puis le pétrole alsacien avait un gros défaut, c'était qu'il était à deux pas de la ligne Maginot. Donc c'est un point de vue stratégique, c'était pas ce qu'il fallait.
Ah, vous parlez de Saint-Marcet, il faut rappeler, comme nous le disions hier dans la précédente émission, aussi l'atout. Hein.
Oui, mais en fait, l'atout plutôt que Saint-Marcet, c'est la petite blague locale que l'on doit à notre député Hippolyte Ducos, qui a préféré l'appeler Saint-Marcet.
Vous m'expliquez à la précédente entretien. Combien de personnes ont travaillé pour la RAP ?
Oula ! Alors, il y a eu plusieurs générations. Ouais. La RAP a employé... Alors, à la sortie de la guerre, il y avait près de 1000 employés déjà. Et notamment beaucoup de gens, de jeunes, que la direction de la RAP avait embauchés pour qu'ils ne partent pas au STO. Ça fait partie des choses un peu complexes de cette histoire-là. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, on en parle un peu dans le film, mais c'est une histoire un peu complexe. Mais les compagnies pétrolières pouvaient soustraire leurs jeunes employés du service du travail obligatoire qui envoyait les jeunes français travailler comme esclaves en Allemagne. Et donc les cadres de la RAP se sont ingéniés à embaucher le plus de jeunes possible et le plus de résistants possible. Et quand ils n'étaient pas encore résistants, ils le sont devenus. Et, la RAP a été le cœur des réseaux de résistance en Comminges. Elle fournissait le carburant dont on avait besoin. Elle fournissait aussi des explosifs. Elle avait des explosifs à la RAP. Donc, et puis le personnel. Il y a eu, alors on ne sait pas trop, mais autour de 500 surnuméraires, c'est-à-dire de quelque chose comme 500 personnes qui ont évité le STO, qui sont allées grossir les rangs de la résistance grâce à la Régie autonome des pétroles.
Pourquoi l'exploitation de Saint-Marcé s'est arrêtée ?
Oh, parce qu'il n'y avait plus de gaz, tout simplement. Ou que le gaz...
Quelle année ?
Vous allez me poser une colle, mais je crois que la fin, elle est assez récente. La fermeture définitive des puits, c'est il y a une quinzaine d'années.
C'est pas si vieux que ça ?
Non, c'est pas si vieux que ça. C'est pour ça que c'est vraiment étonnant que cette histoire soit à ce point oubliée. L'essentiel des installations, ce qui était le plus visible, c'était donc à Boussens. Ça a été fermé définitivement en 1998. 5 ans après 93, c'est en 93, là, en fait, si on doit mettre une date pour la fin, c'est 93. C'est-à-dire 93, c'est Balladur arrive au pouvoir, la première chose qu'il fait, c'est privatiser Elf, et c'est la privatisation de Elf qui est conduit à la fermeture de Boussens. Tout ce qui restait à Boussens a été délocalisé sur Pau et sur Lac.
En dehors de votre film, quelles traces reste-t-il de cette période ?
Eh bien, il reste quelques lieux pour les amateurs d'urbex. Il reste quelque chose qui est vraiment très triste pour les Comminges, c'est le centre de formation international qu'avait construit Elf à la fin des années 80 pour les syndicalistes vous diront que c'était pour faire croire que Elf voulait réellement rester là. Donc un centre de formation avec un bâtiment ultra moderne pour l'époque.
Qui était situé où ?
Qui était situé sur les hauteurs de Boussens. Qui devait accueillir en permanence une centaine d'ingénieurs venus de tout le groupe. Donc le groupe Elf à l'époque, c'était une centaine de milliers de salariés partout sur la planète. Et le centre de formation, il était à Boussens, avec un auditorium à la pointe de la modernité, une centaine de chambres, quelque chose d'assez sensationnel, qui aujourd'hui est totalement à l'abandon, a été dévasté. Il reste aussi les grands bureaux, ce que l'on appelait les grands bureaux de Elf. Aujourd'hui, une toute petite partie est occupée par EDF et par une entreprise qui s'appelle Vitesco, qui nous a permis de rentrer dans ces locaux et de faire quelques images avec un ancien salarié, celui qui a fermé l'usine, qui était secrétaire du CE, Jean-Serge Descoubes, et que l'on a fait revenir. Il n'était jamais revenu sur les lieux. Et oui, ça fait des témoignages un peu touchants. Ouais.
Et qu'avez-vous appris au cours de la réalisation de ce film ? Beaucoup de choses.
J'ai appris beaucoup de choses. Alors, j'ai appris que l'État pouvait être entrepreneur. Voilà, parce qu'on a beaucoup entendu l'État ne peut pas tout. Et là, en fait, c'est l'État, c'est la nation qui est à l'origine de cette création industrielle. Et l'État peut être entrepreneur et des gens au service de l'État, comme ce De Vries, sont capables d'entreprendre, non pas pour espérer des gains personnels, faire fortune, mais pour servir une cause qui les dépasse. Voilà, l'État, la nation, peut-être plus que l'État, avait ce besoin stratégique de carburant à des fins militaires d'abord. Et il fallait absolument développer ça dans le pays. On a créé cette entreprise pour ça, et c'est l'État. C'est vraiment l'État. Alors, il n'y a pas qu'un aspect positif à cela, c'est que comme on travaillait ici pour la nation, on n'a à aucun moment songé à enrichir le territoire. Le territoire s'est enrichi par une sorte de ruissellement parce que les salariés qui étaient sur place et qui travaillaient pour la Régie autonome des pétroles et puis pour Elf gagnaient bien leur vie et ils ne le volaient pas parce que c'est des métiers très durs. on le dit aussi dans le film, la difficulté pour la santé de ceux qui allaient forer du pétrole, c'était vraiment très dur. Avec surtout les pionniers pour lesquels il n'existait aucun moyen de protection. Et l'État a fait cette entreprise-là, et comme c'était pour l'État et pour la nation, on n'a pas songé un instant qu'il fallait préparer une reconversion, préparer pour l'après, parce qu'on savait très bien que le volume du gisement n'était pas si important que cela. Mais contrairement à ce qui s'est passé à Pau, rien n'a été anticipé. À Pau et à Lac, dès le départ, ils ont créé un dispositif qui s'appelait le franc gazier. Chaque mètre cube de gaz, un franc de l'époque, était mis de côté pour l'après. Et ici, cet après-là, voilà, on a été des pionniers. L'État n'a pas songé à l'après. Et le Comminges a énormément perdu avec la perte de cette entreprise. Ça a été les plus grosses manifestations que notre territoire a connues en 93. Mais voilà, c'est une chose peut-être paradoxale et contradictoire. C'est que l'État peut entreprendre, mais l'État peut aussi oublier les gens qui ont travaillé. C'est pas qu'une histoire de territoire et de sous-sol, c'est l'histoire des gens, parce que ce sont les gens d'ici qui ont fait cette entreprise. Donc voilà, c'est un peu d'amertume quand même pour les Comminges, cette histoire-là.
Tout est parti d'ici, un documentaire réalisé par Virginie Maviard et vous, Vincent Barthes, que l'on peut voir sur le site de Via Occitanie, ou bien prochainement donc, oui, dans certaines salles de cinéma, entre autres le cinéma Le Régent à Saint-Gaudens.
En septembre.
Merci.
Merci à vous.